Messieurs, dames, il est temps de régler vos montres, il est 20h.
Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Et comme tous les lundis à 20h, c'est l'heure dont joue la prolongation. Eh oui, ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi le 1er août 2022 et pour des vacances bien méritées, Samuel Cujas n'est pas là, on l'embrasse, il nous écoute. Et donc ce soir, c'est votre serviteur Didier Kuhn pour ne pas le nommer, en compagnie d'Alex Demeter. Bonsoir Alex.
Salut Didier, bonjour, bonsoir à tous.
Comment ça va bien?
Ça va plus ou moins très bien.
Ça va plus ou moins très bien, alors on va faire comme Sam, hein. On va mettre la musique
qui booste,
comme on dit. Et donc pendant 60 minutes, un petit peu moins même, on va parler de foot et encore de foot, toujours du foot, c'est notre passion commune, on en débat tous les lundis soirs et comme chacun comprendra, c'est un petit peu le café du commerce, version quand même polie et comment dirais-je, bien élevée, mais pour le reste ça n'engage que nous et c'est très sympa de parler foot. On va parler de Jupiler Pro League, bien sûr, c'était la deuxième journée de championnat ce week-end. On va également parler de la finale du championnat d'Europe féminin qui a vu la victoire de l'Angleterre sur l'Allemagne après prolongation, mais l'intérêt et l'important pour moi, c'était les 87 000 personnes qui ont assisté à ce match. C'est selon moi une grande première dans l'histoire du foot féminin. On va parler aussi, on va rester en Angleterre, on va parler du Community Shield, qui est un petit peu la coupe
super coupe,
une super coupe, mais voilà, c'est pas le trophée auprès duquel toutes les équipes courent, sauf Liverpool, qui était jusqu'à présent, avec ce Community Shield, le seul trophée qu'il manquait dans leur armoire, dans leur Hall of Fame. Et depuis avant-hier, c'est fait, puisqu'ils ont battu City 3-1. On va aussi parler, mais plus tard dans l'émission, du Trophée des Champions qui a eu lieu à Tel Aviv ce week-end, qui a vu la victoire du PSG 4-0 sur le football club de Nantes Atlantique. Mais bon, ça c'est anecdotique, le score en définitive. L'intérêt, c'est de voir le PSG qui s'exporte jusqu'au Moyen-Orient. Et puis, on va peut-être, s'il nous reste du temps, parler des transferts, mon cher Alex. Mais avant toute chose, Alex Demeter, directeur, président, CEO de Sportimize, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Et Sportimize, c'est quoi exactement? Je le disais hors antenne, comme ça, je vais essayer de bien prendre des notes sur ce coup-là.
Mais la plupart des gens le savent déjà. C'est une agence de marketing et de communication dans le sport. Donc, ça peut gérer les réseaux sociaux, la stratégie, d'accord, le branding, des vidéos, des photos.
Le branding avec les sous-titres, c'est quoi?
Le branding, c'est l'image que le club va avoir sur ses aspects digitaux ou dans son stade.
D'accord.
Tout ce qui est support visuel, on va dire.
Donc, vous êtes le monsieur digital de club de sport, tout sport confondu?
On peut l'être, tout sport confondu.
D'accord. Parfait.
Avec une plus grande expertise dans le basket et dans le foot, parce que on a eu le Brussels Basketball, on travaille avec l'Union Saint-Gilloise, donc il y a plus d'expertise là-dedans, mais c'est multisport. On a également collaboré au BXL Tour, qui est la course cycliste bruxelloise, à qui on était à sa 6e édition cette année. Et au-delà de ça, c'est aussi un média sportif sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. J'invite tout le monde évidemment à suivre, où on retrouvera toutes les infos du business sportif, un peu l'envers du décor. Et on en parlera tout de suite également.
D'accord. Et puis en même temps, ça, tu l'as occulté, on peut se tutoyer, hein, on se connaît.
Bien sûr.
Ça fait presque 2 ans maintenant qu'on se côtoie dans cette émission. En plus de ça, tu es une mémoire vivante du foot. Tu me scotches chaque semaine, chaque fois que t'es là, avec des références d'il y a 20, 30 ans, et t'es bien plus jeune que moi, donc, je pense.
Un petit peu.
On va le dire comme ça. Bien, allez, on plonge, si tu es d'accord, dans notre page Jupiler Pro League. C'était la deuxième journée de championnat, ce week-end, et On se le disait hors antenne, la semaine passée, on était dithyrambique sur certains clubs, on était un petit peu plus sceptique sur d'autres. Eh bien, ce week-end nous a donné à tous et toutes tout à fait tort, parce que toutes les cartes sont rebattues, il s'est passé un tas de choses, et pas nécessairement dans le sens qu'on avait éventuellement pensé, puisque les ténors ont tous perdu des plumes, quasiment, à l'exception d'un club, c'est-à-dire les Limbourgeois de Genk, mais tous les autres ont souffert mille morts, hein, on va le dire comme cela.
Et surtout le club de Bruges.
Et le club de Bruges, on y reviendra, mais c'était un non-match pour le coup. En tout cas, chacun saura, les habitués de l'émission, que moi je suis un supporter des Blue and Smart. Et je disais que la plupart des ténors ont perdu des plumes, sauf Genk, et aussi l'Union. Alors, après la deuxième journée, c'est un peu facile de le dire, mais ils ont battu le leader qui était Charleroi jusque-là. Ils ont battu Charleroi, c'était vendredi, on va essayer de rester un petit peu chronologique peut-être. 1-0, mais le score... Alors, il faut dire une chose, c'est qu'on a marqué très peu de buts ce week-end, effectivement, mais c'est 3 points bienvenus pour l'Union. Surtout, en plus, avec la manière. En tout cas, c'est ce que la presse a donné comme reflet de cette rencontre.
Il y avait la manière, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est l'envie d'aller de l'avant, la hargne, se battre pour la victoire. Et ça, c'est Carole Guérard, ce qu'il a inculqué encore plus dans l'équipe. On le connaît en tant que joueur. Il est passé par Bruges, par le Standard,
absolument,
même au HL. Et Charleroi, on a vu cette mentalité de guerrier, de battant, qui ne lâche jamais, qui se donne à fond de la première à la dernière seconde. Et c'est ça qu'il veut inculquer à son groupe aussi. Et ça, c'est vraiment très, très beau à voir. Justement.
C'est du Carole Guérard ou c'est du Carole Guérard qui fait du Felice Mazzu 2.0 ? À ce niveau-là, je parle. Hein.
Je pense que chez Carole Guérard, il était déjà comme ça en tant que joueur. Tout le monde le connaît comme ça. C'est son ADN, on va dire.
Tout à fait.
Et ça, il le transmet, je trouve, encore plus facilement. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même 6 nouveaux joueurs dans le groupe aussi. Donc, ce n'est pas tout à fait le même que l'année passée. Mais on les voit encore plus se battre, je trouve.
Eh bien, ça, c'est...
Peut-être quelque part où c'était plus facile l'année passée en tant qu'équipe promue, en tant que surprise, en tant qu'équipe qui générait beaucoup de goodwill au sein du football belge. Cette année, ils devront se battre pour chaque point.
Ah ben c'est clair, parce que maintenant ils sont attendus chaque semaine, alors que l'année passée, c'était, je ne vais pas dire un oiseau pour le chat, mais on se demandait combien de temps allait durer le feu de paille, et puis on s'est aperçu que le feu de paille, il a duré toute la saison. Mmh. Et donc voilà, cette année-ci, ça va être l'année de la confirmation, en espérant. Certains sont très optimistes, d'autres moins, et d'autres carrément pessimistes pour le coup. Moi, pour ce que je vois comme jeu développé, ce serait vraiment malheureux que l'Union ne soit pas encore là dans l'élite l'année prochaine.
À voir. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'équipes, Bruges, l'Antwerp, Genk, Anderlecht. Il y a déjà les 4 équipes qui doivent être dans le top 4. On a Gand en embuscade, on a Charleroi qui espère. Ça ne va vraiment pas être évident.
Non,
sachant,
ça va pas
comme tu dis,
évident.
Qu'ils sont attendus.
Oui, non, tout à fait.
Avec une autre équipe, avec d'autres joueurs, avec la Coupe d'Europe... Traditionnellement, les équipes perdent des points malheureusement après ou avant une Coupe d'Europe. Il y aura quand même 8 matchs minimum cette saison pour les unionistes. Et surtout maintenant, tout sera très regroupé début septembre, début octobre, fin octobre, début novembre. Ça risque...
Il faudra juste qu'ils aient le noyau qu'il faut pour pouvoir faire un turnover. Encore que l'année passée, on a dit la même chose à la même période et qu'au final, ils n'ont pas fait de turnover parce que ce n'est pas trop, je dirais, la patte de Felice Mazzu. Mais en attendant, ils ont tenu la distance. Et de quelle manière encore bien, parce que des OFD, ils n'en ont pas eu là, l'an passé, hein, sur les 30 matchs de première partie de championnat.
Il y en a eu un au HL à domicile. C'était le match après...
Quand je
après...
vous disais que c'était une mémoire vivante.
C'était le match après... le titre de champion d'automne, là, il y a eu un petit off-day, on va dire. Rachel était très fort aussi, il faut dire. Mais c'est un des seuls et un des rares moments, effectivement, l'année passée, que l'équipe a connu ça et s'est relancée tout de suite après.
Donc ça, c'était un bon point pour l'Union. Après, j'ai pas envie de parler de Genk Standard tout de suite, parce que je pense que là, on mérite de s'arrêter un petit peu, pour plusieurs raisons auxquelles je reviendrai. Mais par contre, je voudrais parler des clubs qui ont l'air malades, alors que la semaine dernière, ils étaient fringants de chez fringants. Je veux parler des Mauves d'Anderlecht, et je veux parler des Blauwenzorg de Bruges. Ce sont deux matchs qui ont été, pour les deux clubs, des non-matchs, sans minimiser je dirais la performance des équipes adverses, parce que le cercle de Bruges contre Anderlecht a joué avec ses tripes, un petit peu à l'image de l'Union, j'ai envie de dire, ils ont joué comme des morts de faim, c'est la vérité, et Eupen avec ses armes contre le club de Bruges. a marqué évidemment à des moments clés. Hein. Après 40 secondes, c'est 1-0. Après 18 minutes, c'est un but partout. Et puis, dès la reprise de la seconde mi-temps, c'est 2-1. Et puis, ils ont une exclusion. Donc, ils sont à 10 contre 11. 10 Eupénois contre 11 Brugeois, dont tout le monde parle comme des ogres qui vont tout manger sur leur passage. Eh bien, Bruges n'y est pas parvenu. Et ce n'est... Alors, on peut pointer du doigt, évidemment, l'entraîneur, comme c'est souvent le cas, mais c'est pas lui qui court derrière la balle, c'est pas lui qui va au tacle, c'est pas lui qui va au duel. Et Bruges, bizarrement, alors qu'en général, c'est là qu'ils sont vraiment très, très pertinents, je dirais, ils ont manqué de tout, de motivation, d'engagement. J'ai rarement vu Bruges faire aussi peu de fautes.
Mais c'est ça, justement. Tu dis que ce n'est pas l'entraîneur qui joue, qui tacle, qui tire, qui fait une passe. Mais à un moment, j'avais le sentiment, en regardant, que les joueurs ne savaient pas où aller. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient un peu perdus. Et tu avais cette envie absente, visiblement. Il y a de quoi se poser des questions, surtout en début de saison. Maintenant, effectivement, Eupen a très bien joué le coup. Parce que Eupen, on sait tous que leur propriétaire aspire. Ça fait 2 ans qu'ils espèrent ou qu'ils essayeraient de s'en débarrasser. Force est de constater que Eupen a chaque fois une équipe assez compétitive. On l'a vu l'année passée, ils étaient premiers à une journée.
Tout à fait.
Vers la 6, 7, 8e journée.
Mais ça joue pas mal, Eupen.
Ça joue pas mal. Et cette année, ils prennent 3 points en or. Et connaissant le bas de classement et la zone de dégradation qui est quand même très étoffée cette année avec 3 descendants et, à mon avis, si cette équipe qui pourrait prétendre, après quelques journées, être dans cette zone, c'est 3 points en or pour les Pandas.
Mais justement, c'est ce que je voulais y venir. Les points glanés par des, entre guillemets, hein, bien sûr, petits clubs, je pense à Courtrai, je pense à OHL, qui encore, ils ont un beau petit noyau, je dirais. Mais ce sont des points aujourd'hui qu'ils ont gagnés contre des ténors, et donc leur concurrent direct, j'ai envie de dire, pour la descente ou en tout cas pour le non-maintien où tout le monde ne va pas pouvoir battre Bruges et Anderlecht, c'est une évidence. Donc pour eux, c'est vraiment une manne absolue.
Et une source de motivation. Après, ils ont Bernstorck comme entraîneur aussi.
C'est vrai.
Il a quand même de beaux papiers, un très beau CV. Donc c'est pas mal du tout comme match, j'ai envie de dire, entre Eupen, le club germanophone, son entraîneur allemand, les joueurs qui se donnent. Et on le voit hier, à l'image de l'Union, Eupen s'est donné à 400% aussi.
Mais c'est ça. Mais en même temps, comme je me suis dit en voyant les matchs, que ce soit Anderlecht ou Bruges, ils n'ont rien à revendiquer. Je veux dire, l'une comme l'autre des deux équipes ont été absentes. Et c'était même pas un OFD où rien ne roule. Ils n'ont juste pas travaillé. Et ils sont payés pour. Alors j'ai envie de dire, c'est un petit peu une image d'Épinal et un peu démagogique. Mais quelque part, si moi je suis leur employeur, c'est des fautes professionnelles de ne pas travailler alors que t'es censé être au taf.
Peut-être pour ça que Bart Verhaeghe est parti à quelques minutes de la fin.
Ah d'accord, ça m'a échappé.
Il est parti du Kerouac.
D'accord.
Tranquillou, en courant même. Et ça ne devait pas être beau. Mais après, ce qui m'étonne surtout, c'est Bruges.
C'est pas la mentalité de Bruges.
Non, ce n'est pas la mentalité d'un côté, mais il y a beaucoup de joueurs qui étaient là l'année passée, qui ont de l'expérience au niveau national et international. Ils savent très bien que ce genre de points,
ça vaut de l'or.
Perdu, ça vaut énormément.
Tout
et ils
fait.
L'ont presque pris à leurs dépens l'année passée. Une avance d'une autre équipe, tu ne la rattrapes pas si facilement. C'était exactement la même chose l'année d'avant, mais dans le sens inverse. Là, ils ont laissé couler toute la fin de championnat, que Genk est revenu à égalité. Mais il y a de quoi se poser des questions, parce que ce n'est pas un match facile. Il n'y a aucun match qui est facile, que tu ailles à Eupen,
à Serein,
à Courtrai, n'importe où. Il y aura toujours cette ambiance locale, il y aura toujours la ferveur des supporters qui t'attendent, etc.
Puis j'ai envie de dire, mais à part Serein, il n'y a aucun oiseau pour le chat cette année. Ils vont tous jouer comme des morts de faim, parce que les places seront chères pour rester en première division.
Mais même Serein, je laisserai encore le bénéfice du doute, même si à 11 contre 10 plutôt, face à Courtrai, normalement, tu dois quand même toujours gagner.
Moi, ce que j'ai vu des deux matchs de Serein, je trouvais qu'il manque pas mal de choses quand même. Ouais. Après, on verra, le mercato n'est pas fini, puis encore le mercato d'hiver, enfin bref.
Je ne serai pas Serein à leur place.
Oh, joli, joli. Et je voudrais revenir un instant sur ce que je disais tout à l'heure, qui reste vrai, hein, statistiquement parlant, on a vraiment très peu marqué, mais par contre, on s'est beaucoup amusé, parce que j'ai vu de très très beaux matchs de foot. Je pense à l'Union Charleroi, bien sûr. On reviendra, je l'ai dit, sur Genk Standard, qui était un très beau match de football aussi, surtout grâce à Genk, qui est une équipe qui, pour le moment, marche sur l'eau, j'ai l'impression, c'est vraiment exceptionnel. Aussi bien la semaine passée contre Bruges, Bruges qui a obtenu 3 points miraculeux, parce que normalement, ça aurait dû être un match nul, voire une défaite, pour être tout à fait honnête. Et puis, j'ai vu un très très bon, alors pour moi, je suis vraiment pas pour le coup en général fan, mais j'ai vu une équipe de Zult juste merveilleuse contre une équipe de l'Antwerp qui était juste fascinante. C'était vraiment un très très beau match de foot, c'était 1-0, mais plein d'occasions, match ouvert, les deux équipes ont joué sans calculer, et franchement, il y a moyen de s'amuser en Jupiler Pro League. On nous dit toujours qu'il faut aller regarder la Première Ligue, bien évidemment, le football espagnol, ou que sais-je, et bien là, franchement, c'était une pub pour le foot belge.
On avait des scores de Ligue 1.
Mmh, c'est vrai.
Maintenant, ceci dit, quand tu as des scores binaires, des 1-0, 1-1, etc., il y a du suspense, donc c'est pour ça que tu t'es amusé.
Oui, mais le spectacle était proposé, était agréable. Je pense notamment à l'Antwerp en général, ils nous ont habitués à être des bouchers sur le terrain, vraiment les salopards, comme disait Bologna à son époque. Et là, j'ai trouvé une équipe vraiment mature, avec plein d'automatismes, un football chatoyant. Et alors, que dire de Genk ? Genk, là, pour le moment, c'est classe football, Champions League. Quoi.
C'est du football à la Waterfranken. Il a réussi très rapidement à inculquer ses méthodes, ses courses, son jeu vertical à Genk. Fatalement, avec des joueurs plus talentueux, avec tout le respect qu'on a pour les Malinois, mais il y a quand même autre chose à Genk, on a envie de dire, avec une formation qui commence très très tôt. Je pense à Nemeth, par exemple, qui a joué quelques matchs et marqué quelques buts l'année passée. Il y a cette formation à Genk, il y a des joueurs très talentueux. Et qu'ils prennent Waterfranken comme entraîneur.
Bah, comme on le disait la semaine passée, c'était le dauphin de Felice Mazzu, je pense. Il était deuxième entraîneur de l'année. Donc, c'est pas un perdreau de l'année, comme on dit.
Non, pas du tout. Mais à Malines, pour raison X, Y, Z, il n'était pas dans les playoffs 1 à chaque fois, etc. Bon, certes, il a gagné la finale de coupe. Il a été promu en 2018-2019 avec le KV. Mais ses courses, son jeu, sa tactique est très intéressante. Et Genk, pour moi, et ça je l'avais même déjà dit il y a un mois, à partir du moment où Genk prend un entraîneur comme Waterfranken, qui est un bourgeois, qui a une philosophie de jeu qui est claire, qui sait imposer ses choix, tout est fait pour que Genk puisse être champion avec lui. De cette année ou dans les prochaines années.
Et puis ils ont un très beau noyau, il faudra voir sur la longueur bien sûr. Alors moi ce qui m'a épaté, c'est qu'on sait que Ito n'était pas là pour le choc contre le Standard. Alors on dit toujours la mobilette qui fait peur à tous les défenseurs latéraux parce que ce type n'arrête pas, c'est un piston permanent. Et bien son remplaçant, on a oublié qu'Ito n'était pas là quoi. Et apparemment c'est pas un coup d'essai, c'est
El Canous.
Attends, ça c'est une pépite.
Une pépite qui a été formée à Anderlecht, qui est partie à Genk. Et on devrait voir l'éclosion maintenant. Mais la question est maintenant, Dimitri Okonde, donc le directeur sportif de Genk, va-t-il remplacer Ito, qui est parti pour 10 millions au stade de Reims, qui est étrangement peu, mais il y avait peut-être une clause dans le contrat. Mais sera-t-il remplacé ou fera-t-on confiance au jeune El Canous?
Il est tout jeune, je pense qu'il
est très jeune.
Il a 18 ou 20 ans.
C'est une position qui est certes clé, comme toute dans l'équipe de base, mais c'est une position qui est encore modulable, qu'on peut encore apprendre beaucoup, et qu'une erreur ne sera pas nécessairement toujours fatale.
Clairement, mais alors hier, en termes d'erreur, ça a été zéro, je pense, une perte de balles, si j'ai bien vu. Mais franchement, pour le reste, tout était intelligent. Pas toujours réussi, évidemment, mais tout était intelligent, clairvoyant, et sans se la ramener. Et en plus de ça, il a un charisme fou, même sans le savoir, à son âge, parce que le public était juste... on a oublié qu'Ito jouait à sa place la semaine d'avant, quoi. Donc, au contraire de cela, toujours dans ce même match, je vois le Standard aujourd'hui avec un point. Après, ils ont joué Gand et joué Genk. C'est peut-être pas le début de championnat le plus aisé. Mais d'un autre côté, ils ont un point sans avoir réellement mal joué. Aucun des deux matchs, pour être honnête.
Non, mais je pense que tout le monde s'accordera à dire que malheureusement, il manque des cadres, il manque du football, en fait, au Standard.
Il manque des certitudes aussi. Amala, qui est pour le moment, je dirais, à la fois l'essence, le moteur, le volant, le tout, il lui reste peut-être 3 semaines avant de s'en aller. Donc, ça doit être un peu particulier pour ses coéquipiers, en sachant que le guide va partir, d'une certaine
façon. C'est un risque.
C'est un risque, et apparemment, d'après la presse, ça semble bien se préciser. Si Steve nous écoute, il sera là la semaine prochaine. On le salue d'ailleurs. J'espère qu'il ne s'en fait pas trop. Mais c'est vrai que 1 point sur 6 en n'ayant pas mal joué, avec quand même, on a retrouvé un Standard qui a la culture, la volonté d'aller de l'avant, comme tu le disais pour l'Union. Après, on peut même pas dire qu'ils n'ont pas de chance. C'est juste qu'ils tombent sur plus fort qu'eux, pour le coup. Peut-être moins encore la semaine dernière que cette semaine-ci. Cette semaine-ci, il n'y avait pas photo. Là, il n'y avait rien à dire. En plus, quand tu fais les erreurs que tu fais derrière, c'est impossible de gagner un match de foot. Et la même chose, si, tant que tu auras un Nsoki dans l'état de forme actuel à Bruges, tu vas perdre beaucoup de points, parce que les deux buts, c'est pour lui. Hein.
Apparemment, Hoffenheim a fait une offre de 12 millions.
Pour ?
Pour Stanley Nsoki.
Ah ben... Bon vin.
Mais bon, je pense sincèrement, c'est un joueur qui a du talent. On l'a vu l'année passée dans certains matchs, etc. Il était étincelant.
Il jouait la carte.
Exceptionnel. Et c'est comme bon nombre de footballeurs. Il y a l'aspect mental qui joue beaucoup. Il y a l'aspect coaching. Il y a des coachs comme Walter Franken, comme Karel Gerards, qui sont constamment derrière les joueurs quand ils sont sur le terrain, à les replacer, à les motiver, à leur donner des conseils, etc.
Oui, mais enfin, là, quand tu vois le premier but.
Oui, je suis d'accord. Mais il y a paire de balles de Sobol juste avant.
Aussi. Oui, mais 40 secondes. Et le gars est à 4 mètres de lui tout seul au petit rectangle.
C'est ce que Eupen a analysé, parce que c'est exactement la même chose en deuxième mi-temps.
C'est vrai.
Donc, il y a ces lacunes que Eupen a mis à mal face à Bruges. On ose espérer pour le club que finalement, ce ne sera plus possible lors des prochains matchs.
Mais comme je te le disais, moi qui suis supporter, j'espère qu'on a eu notre off-day annuel hier et que maintenant on est tranquille pour le reste de la saison. Et donc là, on a fait un petit round-up. On peut aussi parler un instant de la Gantoise, qui est quand même une équipe sur le papier assez prometteuse. Encore qu'ils ont perdu Tissou Dali, ligament croisé, donc à mon avis, on le reverra que début 2023. Si
malheureusement, ça sera pour les playoffs. Il rate la Coupe du Monde, le pauvre.
Ouais, ouais,
et c'est
ouais.
Dommage, parce qu'il a déjà un âge avancé
en
pour
plus,
un footballeur
de talent, quoi.
Qui revenait. Et il ne faut pas oublier, De Sarre manque aussi. Et c'était pour moi le meilleur joueur de Gand l'année passée.
On est d'accord. Enfin, le plus constant. Mais je pense que Kums, cette année, en tout cas de ce qu'il a montré lors de ses deux premières journées, est à la hauteur aussi. On retrouve le Kums de version soulier d'or, hein, avec des longues passes tranchantes, une vista qu'on ne l'avait plus vu avoir à Anderlecht le temps de son passage. On retrouve le Kums d'il y a 5 ans maintenant, c'est ça ?
Oui,
alors qu'il a 5 ans de plus, donc chapeau bas. Et puis, la surprise du chef, elle vient du Lantuaire pas 6 points, premier, mais... co-leader avec OHL. On l'attendait pas à pareille fête, OHL. Peut-être parce que c'est pas trop sexy comme nom, comme équipe, comme stade. Et pourtant, ça joue pas mal au foot.
Ça joue pas mal au foot, mais disons qu'OHL, il y a de l'ambition. Il faut pas oublier qu'il y a Leicester, le club anglais champion avec Ranieri il y a quelques années. C'est Leicester qui est derrière avec King Power. Il y avait de grosses ambitions de jouer l'Europe. Le stade est homologué, car l'Union y jouera demain d'ailleurs son match contre les Rangers. Il y a l'ambition. Après, il faut dire, OHL, ils ont joué Westerlo à domicile, ils ont été à Courtrai.
Donc, oui. Voilà, c'est jouable.
Ça, je reste dubitatif.
Enfin, Bruges est allé à Eupen. Hein.
Non, tout à fait. Mais même
et Anderlecht au cercle de Bruges.
Même sans manquer de respect, disons, pour une équipe comme OHL, c'est peut-être le début rêvé pour créer une surprise, comme l'a fait Eupen l'année passée, l'Union. On a déjà vu d'autres équipes aussi, comme Wargame qui montait, Charleroi, le cercle l'a fait aussi une saison. Donc, peut-être que ça peut amener un vent de fraîcheur et avoir un outsider comme OHL dans le top 6 ou dans le top 8 cette année.
C'est vrai. Et je voudrais revenir encore un dernier instant, si tu le permets, sur le match Antwerp-Zul, parce que j'ai salué comme il fallait l'être, parce que c'était vraiment du beau foot qu'a produit l'Antwerp. Mais on dit qu'il n'y a pas de beau match quand il n'y a pas deux équipes qui jouent. Et je voudrais quand même saluer Zul Waregem qui a joué. Tu as vu le match aussi ?
Je n'ai pas vu le match.
Tu n'as pas vu le match ?
Mais ils ont joué libérés.
Ils ont joué libérés.
D'après le résumé.
C'était juste... fabuleux à voir, c'était sans calculer, ouvert, jouant crânement la chance. Et si c'est 0-1 ou 0-2, il n'y a rien à dire. Hein. Parce qu'on a vu l'Antwerp qui a déroulé en deuxième mi-temps parce que ça jouait bien. Mais l'Antwerp ne s'est pas montré extrêmement dangereux en première mi-temps. En tout cas, beaucoup moins que Zult, qui n'a pas eu la réussite. Mais franchement, s'il continue de la sorte, je serais bien content pour Mbaile, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Non pas que je le connaisse personnellement, mais je trouve que c'est un gars qui a son franc-parler, qui a l'air, hein, parce que je ne sais plus qui disait que dans le foot, tout le monde ment tout le temps. Mais, mais d'un autre côté, il a l'air tellement humain. Et il l'a dit en interview, il disait, moi, des matchs comme ça... Alors, on sait bien qu'il ne pensait pas vraiment. Il dit, je veux bien en perdre chaque semaine, si c'est en jouant comme ça, parce qu'il était fier de ses joueurs. Et il y avait de quoi, franchement...
Il y a de quoi, c'est un football chatoyant apparemment.
Exact.
Mais... il ne faut pas oublier, ils ont gagné leur premier match. Donc il y a déjà 3 points. Étant Zult, il n'y a pas d'ambition de terminer dans le top 4, certainement pas. Dans le top 8, éventuellement, si l'occasion se présente. Mais c'est surtout ne pas connaître une saison comme l'année passée et regagner un petit peu la confiance de leur public.
Donc, ça, c'est clair.
Avec ce jeu-là, ils vont perdre des matchs, certes.
Mais la semaine prochaine, il y a un petit Bruges-Zulte vendredi soir qui promet d'être assez pétillant, je dirais.
C'est cette semaine même d'ailleurs.
Ouais, mais c'est dans 4 jours. Mmh. Hein. C'est dans 4 jours. Donc, on a fait le tour. Dis-moi.
Et n'oublions pas, Mbaïlé, il avait été marqué quelques buts à Bruges. Je me souviens en play-off, Champions play-off il y a quelques années, Wargame menait 1-4 à un moment. Il a joué le match de sa vie. Donc c'est quelque chose pour lui et pour ses joueurs qu'il peut utiliser.
Et puis Zulte, pour toutes les équipes locales là-bas, aller à Bruges, c'est toujours le match de l'année.
Tout à fait, mais ils n'ont rien à perdre.
Non, clairement.
Et Bruges aura à perdre.
Bah oui, mais Bruges aussi, et c'est peut-être aussi le bon côté de la médaille, doit une revanche à tous ses supporters. Je pense à ceux qui ont fait le déplacement, bien évidemment, parce que c'est quand même le plus long déplacement de l'année pour eux. Mais je pense aussi à tous ceux qui sont abonnés et qui se sont tapés 90 minutes à chemin de croix, dont moi. Et donc, ils nous doivent quand même une solide revanche. Peut-être pas dans le résultat, mais en tout cas dans la manière. J'ai pas reconnu l'équipe dont je suis supporter depuis tellement d'années, vraiment. Pour le coup. Bien. Pour ce qui concerne la Jupiler Pro League, je pense qu'on a fait le tour, sauf si tu as une autre idée.
Non, on va voir la troisième journée, comme tu disais, qui commence vendredi avec Bruges.
Et on peut peut-être juste terminer en disant que Malines a toujours 0 point, alors qu'ils produisent quand même du beau foot.
Et c'est une surprise.
Oui.
Ils ont été chercher Buzz comme entraîneur, qui était quand même, pas une référence aux Pays-Bas, mais quand même un entraîneur qui était challenger des équipes du top, avec son équipe de Groningen. C'est bizarre. Il faut s'attendre quand même à ce que Malines prenne des points sous peu, sinon ça pourrait être...
On
sait comment ça se passe cette année, avec, comme on disait, les trois descendants. Beaucoup d'équipes ne vont pas se poser la question et ne vont pas miser sur l'avenir.
À l'heure actuelle, le standard Malines et Serein disparaissent du paysage.
Oui.
Mais on n'est que 2 journées, hein. On a encore du chemin, ça c'est clair.
On a du chemin, mais le standard devra aussi rapidement prendre quelques points pour avoir la confiance, pour avoir le public et surtout pour continuer le projet. On avait dit déjà lors de la reprise du club par le holding 777, ça met beaucoup de temps à mettre en place, que ce soit en coulisses, que ce soit en interne, en administratif, partout, ça met énormément de temps à mettre en place dans un club. En général, on commence à avoir des fruits après 2 ans ou 3 ans de ce travail qu'on a fait en amont. Mais il faudra des résultats quand même, et il faudra une certaine stabilité, sinon le standard ne pourra pas vivre. Ce serait le minimum pour le nom du club et pour le club. Après, on a bien vu en France, par exemple, des Bordeaux qui descendent, des Saint-Etienne qui descendent contre toute attente. Ça peut arriver, donc il faudra prendre des points rapidement.
Après, on l'a dit, répété, ils ont 1 point sur 6, mais ils ont joué Gand et Genk, qui sont quand même des candidats officiels au top 4 et au top 8 minimum. Donc voilà, on verra bien. Ils n'ont pas rencontré des petites équipes à suivre, à faire. Et donc, on aura d'autant plus de raisons d'être là semaine après semaine dans On joue la prolongation. Bien. Un petit peu de musique avant de continuer. Qu'est-ce que t'en penses?
Qu'est-ce que tu nous mets?
Je mets ce que j'aime en ce moment.
C'est
du belge, c'est du bon, c'est Angèle, ça rime. Libre. À tout de suite. Vous êtes dans On joue la prolongation.
Me voilà, c'est ma voix, la suite en musique. Sur scène en coulisses libre. Me voilà, mais sans toi, la suite. We're
Et bien là voilà, c'était Angèle, libre, et voilà, ben, y a pas de hasard quand on fait de la radio, puisqu'Angèle, c'est une femme libérée déjà, et puis c'est une militante féministe dans le bon sens du terme, et donc ça nous amène à parler du championnat d'Europe de l'UEFA, donc pour les femmes, mon cher Alex.
L'Euro 2022, signalons. Pour commencer, d'abord, la belle prestation de la Belgique.
Ah ben absolument.
Pour la première fois de son histoire, qui a passé la phase de groupe. C'est super. Après, malheureuse défaite contre la Suède dans les toutes dernières secondes du match. Mais la Suède est quand même une des grosses équipes.
Dans le temps complémentaire, même.
Tout à fait. Une des grosses nations mondiales. Donc, c'est... La Belgique a quitté le tournoi avec les honneurs, ce qui est déjà bien. Et tu vas y venir, l'Angleterre a gagné son premier trophée majeur hommes-femmes confondus depuis 1966.
Ah oui, mais c'est exceptionnel. Hein. En fait, moi, j'ai vu le match, je suis tombé dessus par hasard et je me suis beaucoup amusé. Alors, effectivement, ceux qui aiment, je parle sous ton contrôle, qui sont fans de foot masculin et qui ont l'habitude, alors vont se dire, on dirait du slow motion d'une certaine façon, ce qui n'est pas vraiment faux, pour être honnête, parce que c'est vrai que la différence des hommes, enfin, c'est ce que moi j'ai remarqué, c'est que lors d'un match féminin, très souvent, les joueuses reçoivent la balle et elles ont 2, 3, 4, voire 5 secondes pour pouvoir faire quelque chose, alors que les hommes, ils ont une fraction de seconde, après ils ont 2 personnes sur eux.
Donc... Il y a effectivement moins d'intensité et beaucoup moins de pressing, comme on voit chez les hommes, avec un replacement plus rapide, etc. Donc c'est du foot à l'ancienne, j'ai envie de dire.
Voilà, j'ai l'impression de voir du foot masculin dans les années, début des années 70. Mmh. Après, par contre, avec quand même des aspects tactiques tout à fait différents. Parce qu'avant, un défenseur restait en défense, un milieu au milieu et l'attaquant devant. Là, c'est quand même déjà sa coulisse. On voit quand même qu'il y a du background dedans. Mais, de un, moi j'ai été épaté parce qu'on dit toujours oui, football féminin, c'est toutes des camionneuses, ceux qui font les images d'Épinal. Moi je vois des femmes là-dedans qui sont extrêmement féminines, très agréables à regarder, et pas du tout, quand je dis agréables à regarder, je parle pas...
Elles ont une certaine élégance aussi.
Exactement. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il y en avait pas mal maquillées en plus. Et c'était, alors tu vas me dire, les joueurs de foot, ils se mettent les coiffures, machin truc, mais elles ont quand même pensé au fait télévisuel, etc., pour certaines d'entre elles, en tout cas, de se maquiller, et je trouve ça très bien.
Eh bien, je t'avoue, je n'avais jamais fait attention à ça.
Mais moi, j'ai vu ça parce qu'il y avait des gros plans, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est maquillé.
Et pourtant, je dois avouer, j'ai regardé très très peu cet Euro. Par contre, j'étais à la Coupe du Monde qui se joue en France il y a 3 ans, à Valenciennes, j'ai été voir 2 matchs. Il y avait une ambiance sympa aussi.
Tout à fait.
Il y a aussi des supporters, et là ça draine de plus en plus, et je pense que tu vas y venir. Du côté non sportif, il ne faut pas oublier, tu disais que Wembley était rempli, ou quasiment.
Mais 87 000 personnes, c'est...
On sait, Barcelone a battu le record il y a quelques semaines lors de son match de Ligue des Champions, de Liga, pardon, contre le Real Madrid, avec un stade Camp Nou plein pour ce match des dames, ce qui était un record absolu.
Mais il y a une différence, c'est que là il y a des aficionados qui ont déjà des abonnements. Tandis que là, pour le coup, ça a généré l'envie à 87 000 personnes d'aller voir ce match. Donc c'est encore très différent de quand à Bruges, on joue dans un stade comble, mais il y a 30 000 abonnés qui se disent « j'ai rien à faire, j'ai payé, j'y vais ». Mais tandis que là, voilà.
Il y a l'aspect média qui est très intéressant aussi. Parce que certes, ici, on a l'Angleterre, on peut dire que c'est peut-être un petit peu biaisé, parce que l'Angleterre joue, ils attendent un trophée, on connaît la ferveur des Anglais. Mais ici, on a aussi, le tournoi a été retransmis dans 195 pays. Ce qui est quand même déjà énorme.
Et dès que la télé arrive, ça fonctionne.
Et 250 millions de vues aussi. Et ça veut dire que ça vit quelque part et ça prend de plus en plus d'ampleur.
Ben oui, mais alors là, on parle de football féminin et c'est ça que j'avais envie de pointer quand même. Je trouve ça une très belle chose de mettre le sport féminin à l'honneur parce que finalement, le tennis féminin, ça fait des années évidemment qu'on a l'habitude. C'est presque devenu, pour nous, on pense même plus que ce sont des femmes. C'est une autre division. Mais le foot, c'est pas un sport dans l'esprit des gens, dans l'inconscient collectif réservé aux dames. Je pense aussi, plus récemment, au sport moteur. Tu sais bien que je suis passionné de ça. Mais il y a des femmes qui sont extrêmement talentueuses. Il faudra bientôt qu'il y en ait une en Formule 1, bien évidemment, c'est à souhaiter. Mais tout ça est en route et je pense que c'est une bonne chose. Et la télé y est pour beaucoup. Quand tu vois le succès qu'a eu cette Coupe de l'UEFA 2022, donc maintenant l'Euro 2022, j'y arrive. Mais tu vois aussi, par exemple, le hockey. Maintenant que ça commence à être télévisé pour certains matchs, avec les résultats aidants de l'équipe belge, mais ça suscite vraiment, je pense que depuis qu'on parle de cette équipe belge qui n'en finit pas de séduire à travers le monde, qui obtient des bons résultats, je pense que le nombre, je ne vais pas dire d'abonnés, mais d'affiliés a dû augmenter de 300 à 400%.
Mais c'est la conjoncture du sport, on avait eu ça dans les années 2000 avec Justine Hénin et Kim Clijsters aussi. Énormément de personnes, de jeunes se sont mis au tennis à ce moment-là.
Sans parler de tous les parents qui ont prénommé leur fille Justine ou Kim.
Tout à fait. Mais moi, j'aime encore bien jouer au tennis aujourd'hui, malgré que tout le monde se mette au paddle.
Oui, c'est vrai.
Mais disons, oui, non, tu parlais de ces aspects. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant les dernières années. On a des arbitres féminines qui arbitrent les hommes en Coupe d'Europe, en championnat, en Ligue des Champions. Ça joue aussi de plus en plus.
Ben oui, mais alors il y a une image que je retiendrai. Tu as vu la finale femme ou pas ?
Je n'ai pas vu.
T'as pas vu. Alors le but de la victoire marqué par Kelly, c'est dans les prolongations. Ils ont joué la prolongation eux aussi. Eh bien, elle marque son but, elle enlève son maillot et elle court à travers tout le stade en soutien-gorge. Why not ? C'est comme un bikini en quelque sorte. Elle a pris une carte jaune comme les hommes, bien évidemment. Mais c'est surréaliste quoi. Tu te dis waouh. Je veux dire, comme quoi. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Ça doit être vraiment un moment, une émotion incroyable. Parce que je ne connais pas beaucoup de femmes qui ont envie d'enlever leur t-shirt et leur chemisier comme ça en pleine rue, juste parce qu'elles sont contentes. C'est exceptionnel.
Elle sait qu'elle a de la lingerie en dessous et aussi le GPS presque bien obligatoire sûr. Pour les sportifs. Donc,
Moi, ça m'a vraiment... je me suis dit, waouh, je pensais que... Non, c'est la même chose que les hommes. C'est la même exultation. C'est le même désir de vaincre, la même rage de vaincre. Et finalement, c'est David qui a battu Goliath parce que sur le papier, les Allemandes étaient bien plus rodés, j'ai envie de dire. Ils avaient un football plus construit, comme bien souvent. Et on a cru que Gary Lineker allait encore une fois avoir raison en disant que le foot, c'est deux équipes de 11 qui jouent 90 minutes et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Eh bien non, pas ça. Les Anglaises l'ont fait mentir, pour le coup. Mm-hmm. Et c'était très bien et c'était très agréable à voir.
C'est une belle fin aussi de leur tournoi qui était quand même très bien organisé. Tu parles de Wembley, il y a aussi des matchs à Manchester, il y a eu des matchs dans des énormes stades aussi. Mm-hmm. Donc... C'est un grand pas en avant ou un énorme pas en avant pour le football féminin, cet Euro.
Ben à tel point que le Community Shield, la finale de Community Shield a eu lieu à Leicester. C'est où Liverpool a battu Manchester City pour l'histoire à 3-1. Je le disais en table des matières de notre émission de ce soir, c'était le seul trophée qui manquait à Liverpool. Eh bien, ça y est, c'est chose faite maintenant. Je pense il faudrait voir dans les tables des statistiques s'il y a beaucoup de clubs qui possèdent tous les trophées possibles et imaginables, que ce soit en Angleterre et en Europe. Mais pour le coup, Liverpool a fait une véritable performance parce qu'ils ont battu Man City. Et pour avoir vu le match qui était très agréable à suivre aussi, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'ils ont probablement le meilleur milieu offensif qui est Kevin De Bruyne, bien sûr, et ils ont aussi un, sinon le meilleur buteur au monde actuellement en activité, c'est Haaland. Eh bien, la mayonnaise, elle n'a pas encore pris entre ces deux-là.
Ah, il faut un peu de temps. C'est aussi pour Haaland, c'est un autre football. Il a certainement eu des conseils de son père qui a joué lui-même à Leeds en Angleterre dans le temps et d'autres clubs, je pense. Il faut le temps.
Ces deux-là vont s'entendre, ça va
sûrement faire mal. Mais c'est pas, il y a beaucoup de gens qui voient le football comme FIFA. Voilà, on va acheter les meilleurs joueurs, on va en faire une équipe et on va battre tout le monde 10-0. Mais c'est pas du tout ça. Il y a toute la tactique, il y a toutes les instructions de Guardiola et on sait à quel point il est fétichiste presque de sa tactique.
Par contre, chaque fois qu'il sort De Bruyne, il perd. Parce qu'il a fait sortir De Bruyne.
Pas illogique du tout. Mais non, on sait très bien. Et pour Haaland, il reste un jeune joueur. Il ne faut pas l'oublier. Qui avait presque signé à Bruges aussi, d'ailleurs, il y a quelques années.
Dommage qu'on ne l'a pas fait maintenant.
Mais je veux dire, il faut du temps et ils vont apprendre à se trouver. Ça peut devenir une machine de guerre, mais pour ça, ils doivent. Il y a des matchs, il y a des entraînements, il y a le temps qui fait beaucoup de choses aussi.
Et puis, il n'est pas Agüero qui veut avec l'entente avec KDB, comme on dit.
Aussi.
Bien. On va aborder maintenant un autre aspect du sport.
Ah, la Minute Sportimize.
La Minute Sportimize.
Allez, c'est bien. Didier,
oui.
Le City Marketing, ça t'inspire quoi ?
Le City Marketing. Alors, est-ce que ce serait l'image qu'une ville aurait envie de donner au monde entier ?
Tout à fait. Donc, on le voit à travers l'Euro, par exemple, qui s'est déroulé en Angleterre. Il y avait un tas d'activations dans les villes, avant, pendant l'événement. Et on le voit aussi, la Coupe du Monde en Russie, c'était une tentative de City Marketing qu'ils ont un peu ratée les derniers mois. Il y a eu la Belgique et les Pays-Bas qui ont eu un city marketing négatif en 2000 avec l'euro. Mais ici, on va plus parler des clubs européens qui se déplacent. Donc, comme tu l'as dit, le PSG jouait en Israël pour le trophée des champions.
Tel Aviv.
Tout à fait, à Tel Aviv. Et il y a eu un autre match aussi en Israël. C'était Spurs-Tottenham qui a affronté l'AS Roma. Donc, il y a une... En Israël, par exemple, tu as la volonté maintenant, le city marketing, de faire venir des clubs, de faire venir des événements. On a eu l'Argentine qui a affronté l'Uruguay aussi il y a quelques années en Israël, dans un nouveau stade hyper moderne, hyper magnifique, un stade dont on devrait rêver en Belgique d'ailleurs. Mais il y a cette volonté d'attirer les clubs, de drainer les stars vers
Israël. Mais comment
est-ce
qu'ils font
Israël,
ça, les villes?
Mais disons pour
c'est du lobbying pur et dur.
Il y a du lobby, il y a un peu de géopolitique qui joue, mais surtout pour les clubs, c'est très intéressant.
Alors, tu parlais de géopolitique, alors moi, ça m'a quand même, on sait, c'est un secret pour personne. Le PSG est quand même à 99%, je pense, avec des fonds qataris. Et donc, ils vont se produire à Tel Aviv. C'est quand même, pas dire surprenant, mais et dans le bon sens. Hein, je veux dire, c'est surprenant dans le bon sens. Pourquoi pas? Peut-être c'est que cocasse. Le sport peut faire des liaisons.
Mais après, il faut dire que c'est le trophée des champions, comme on a dit. Donc, c'est le vainqueur de la coupe qui affronte le champion en titre lors d'une finale. Une super coupe, comme on connaît en Belgique. Mais c'est l'organisation de la Ligue de football. En général. Donc, ce n'est pas le club qui choisit d'aller là. Par contre, le PSG...
Donc, ça veut dire que... Alors, tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, selon toi, enfin, pas selon toi, d'après ce que je comprends de tes propos, Tel Aviv ou Israël a pris contact avec la Ligue 1 en disant, voilà, est-ce que vous seriez d'accord que la Super Coupe de votre pays se joue chez nous? C'est ça le principe du jeu?
C'est ce qui se passe aussi.
Et la contrepartie, c'est quoi?
Il y a une contrepartie financière, il y a des droits TV qui sont intéressants, il y a beaucoup de choses qui jouent avec. Mais délocaliser justement cette Super Coupe, ça se fait en Espagne aussi, ça se fait en Italie. Ils partent aussi au Moyen-Orient, eux, par exemple.
Mais ce sont des équipes mondialement connues, évidemment.
Tout à
parce
fait,
que Cercle de Bruges, Westerlo, à Ouagadougou peut-être, mais encore, j'en suis pas sûr.
Skerpenevel.
Skerpenevel, pourquoi pas.
Mais tout ça pour dire, le PSG, avant d'aller en Israël, le PSG a été au Japon, par exemple. Parce qu'ils ont deux magasins sur le territoire nippon, ce qui est le seul club qui a ça. Et en quelques jours de temps, ils ont joué quelques matchs amicaux, ils ont montré l'équipe, séance dédicace, rencontré des fans, etc. En quelques jours de temps, ça leur a apporté 10 millions. C'est l'échange financier pour aller se produire au Japon. Et deux, ils ont gagné plus de 110 000 followers sur leur compte Twitter. Le Twitter est très, très utilisé au Japon.
D'accord.
Donc, pour le club, il y a cette importance, financière. Deux, de générer une nouvelle fanbase, de créer des nouveaux fans à travers
le monde.
Ce qui aura des produits dérivés, ce qui fera des voyages vers Paris, vers le Parc des Princes, etc.
D'accord.
Pour les plus fortunés ou les plus envieux d'entre eux, pourront venir ou viendront en Europe. À ce moment-là, ils payeront cher leur voyage fatalement.
Et donc,
ça bénéficiera au PSG, mais aussi à la ville de Paris et à la France.
Ok. Alors, pour l'ignare que je suis, 110 000 followers sur Twitter en plus. C'est quoi, les followers? C'est, je dirais, un oiseau pour le chat. C'est-à-dire que comme on en voit, ils balancent de la pub, ce sont des yeux en plus pour voir la pub. Ou bien, est-ce qu'il y a encore une autre stratégie derrière?
Sur Twitter, c'est littéralement l'oiseau. On a presque envie de dire, vu le logo du réseau social. Mais je veux dire,
j'ai pas fait exprès pour le coup.
Non, mais elle était pas mal. Mais disons que, parce que ce réseau social est très utilisé au Japon, mais je veux dire, pour les produits dérivés, pour, comme je disais, des voyages, il y a des supporters, ils deviennent accros à un club et ils organisent un voyage en fonction de ce club, par exemple.
D'accord.
Ce qui draine aussi.
Donc c'est
du
city
marketing qui va dans les deux sens.
Ce matin, on se faisait l'écho justement du résultat de ce match, du trophée des champions à Tel Aviv. Et Lise Benkemoun, notre rédactrice en chef que tu connais, je pense, elle nous disait qu'à Tel Aviv, c'était la folie. Tous les gosses avaient un maillot floqué Neymar, floqué Messi, floqué Mbappé. Malheureusement, il n'était pas sur la pelouse puisqu'il était suspendu. Donc tout ça, ça va au club directement ou bien
il y a des clés de répartition avec les équipementiers, avec Nike, il y a des royalties qui sont payées aussi, mais fatalement le club en bénéficie car un supporter acharné d'Israël par exemple, qui n'est pas nécessairement un pays de foot proprement dit comme on a en Bundesliga, etc., mais pour les supporters, je pense par exemple au Maccabi Haïfa, au Hapoel Haïfa ou d'autres équipes, ou Jérusalem, leur second favorite team comme on les appelle, ce sera peut-être le PSG. Et d'accord. Donc, fatalement, chaque année, un maillot, ou une écharpe, okay. ou un match, ou quelque chose. Et donc, ça rapporte au club et ça, ça crée aussi, et à long terme, pour les droits TV, c'est très intéressant.
D'accord.
Pour la Ligue de football, qui peut vendre ses droits TV en Israël à une chaîne payante, évidemment.
D'accord.
Et donc, ça bénéficie tout le monde d'avoir ce levier, on va dire. Et pour terminer, avant qu'on passe peut-être à l'aspect sportif de PSG Nantes, ce trophée des champions.
C'est anecdotique pour le coup.
Hein. ça reste l'essence même. Mais on a le Real et le Barça. Ils étaient aux États-Unis, par exemple.
Ouais.
Et je vais te dire, ils ont joué le Classico l'un contre l'autre. Le Real a encore affronté Club América, qui est un club mexicain, et la Juventus. Donc le Real a été une dizaine de jours aux États-Unis. Donc eux, on parlait du PSG, le Real, ça leur apporte entre 12 et 15 millions d'aller se produire aux États-Unis, dans des stades pleins. À Las Vegas, un Classico. Ça vend du rêve. Surtout que Las Vegas se brande de plus en plus comme une ville de sport.
En plus, ça fait du temps de jeu pour Eden.
Dans tous les sports, tout à fait. Ça fait du temps de jeu pour Eden. Ça fait une vente de maillots d'Eden aussi, éventuellement.
Absolument.
En Amérique, on aime ça. Et donc, ces tours qui sont de plus en plus fréquents pour les clubs pendant l'été, ça permet justement de trouver une nouvelle fanbase et de grandir encore plus mondialement.
D'accord. Ben, c'est quand même intéressant. Par contre, tu as dit, on va venir à l'aspect sportif du résultat PSG Nantes. Alors, je parle pas du... Enfin oui, le PSG est allé quand même au Japon. Il est maintenant au Moyen-Orient. Et son premier match de Ligue 1, c'est ce week-end. Alors, on va pas parler d'Israël parce que le jet lag n'est pas forcément important et à une heure de décalage. Mais pour ces clubs dont le Real, dont le Barça, tu évoquais à l'instant le PSG au Japon... Est-ce que c'est pas quelque part un petit peu contre-productif d'aller si loin avec toutes les impératifs au niveau de tout ce qui est diététique, parce qu'on sait que sportif de haut niveau, ça mange, c'est comme des chevaux, hein, c'est comme des purs sang. Ça ne peut pas manger une minute plus tôt, une minute plus tard, hein, ça doit être.
Mais ces clubs, c'est comme les équipes nationales qui vont se rendre au Qatar, par exemple, dans quelques mois. Ils ont leur propre cuisine avec eux. Il y a tout est réglé, établi dans les moindres détails.
Et au niveau de la fatigue, est-ce que je ne sais plus, je pense que c'est pour la Coupe du Monde au Brésil, si je me souviens bien, on disait que certaines équipes, les joueurs mettaient des lunettes spéciales dans l'avion qui leur faisaient faire en sorte qu'ils n'avaient pas le jet lag, parce qu'on leur diffusait de la lumière dans les lunettes pour que pour eux, il n'y ait pas le décalage horaire. Enfin bref, c'est très scientifique tout ça.
Je t'avoue que je n'y étais pas. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est les joueurs maintenant, il y a cette motivation. C'est quand même plus sympathique d'aller faire un petit tour au Japon pendant 10 jours que d'aller s'entraîner au Touquet, sur un terrain ou à Paris-Plage.
Donc
c'est un petit peu des paysans, c'est sympa, c'est une autre culture, c'est une autre forme de vie, c'est chouette pour les joueurs. Après, je pense que cette fatigue se sentira.
Moi aussi, je préférerais faire de la radio à Copacabana, hein, les gars. Donc, voilà.
On pourrait délocaliser une émission, si tu veux, avec le plus grand des plaisirs. Mais tout ça pour dire que pour les joueurs, c'est très amusant, c'est chouette, etc. Ça change.
Et on oublie que c'est des gamins aussi pour la plupart, c'est vrai.
Cette fatigue se sentira plus tard dans la saison, peut-être.
Bien. Et donc, on va, on va venir donc à l'aspect purement sportif. Et donc, ça a donné quoi ? Bah, 4-0 pour le PSG. Le contraire aurait été plus qu'étonnant. Mais les stars ont brillé. En tout cas, les stars présentes sur le terrain. Et alors, moi j'ai lu ça, les bras m'en sont tombés, je pensais qu'il avait déjà disparu. Eh bien non, Sergio Ramos a marqué. Donc ça veut dire, un, il est vivant, deux, il est toujours au PSG, et trois, il joue encore au foot, et quatre, il sait faire une talonnade, puisque c'est comme ça qu'il a marqué.
Mm-hmm. Bah, espérons pour lui, parce que ça reste un joueur mythique du football espagnol. Espérons pour lui,
justement,
c'est la saison où il peut revenir, il peut remontrer son talent, parce qu'il en a évidemment énormément, malgré quelques petits gestes un petit peu moins sportifs. Mais ce qui est très intéressant à tirer comme conclusion de ce match, pour moi, c'est le PSG. Et là, il y a une culture de la gagne et de l'envie que Christophe Galtier a installée.
J'ai envie de dire, il est temps, hein, l'absence de Sam. Il est temps parce que ça leur manquait cruellement. Et pourtant, ils n'ont pas eu que des perdreaux de l'année non plus, je me répète, comme entraîneur. Hein, quand tu as des Tuchel, quand tu as des Pochettino, alors tout ce qu'on peut leur reprocher, mais en attendant, pas la motivation. Hein, parce que
non,
c'est des entraîneurs qui ont la culture de la gagne, hein, quand même.
Unai Emery, oui, Tuchel, ils ont gagné des Ligues des Champions, des Coupes d'Europe juste après être parti du PSG.
Et même avant d'y arriver.
Et avant aussi. Oui.
Pour Unai Emery, en tout cas, le monsieur Coupe de l'UEFA, si je ne me trompe pas.
Europa League, oui.
Europa League, hein, c'est ça. Donc voilà, donc c'est étonnant de voir que des joueurs comme ça, aussi talentueux, n'aient pas cette culture de la gagne. Alors, ça devrait être, je dirais, dans leur ADN, même avant de savoir taper dans une balle, quoi. Mmh.
surtout au Real Madrid, que Sergio Ramos était habitué à gagner, même Lionel Messi à Barcelone. Après, bah, c'était un nouveau
c'était
club.
Un vrai guerrier, Ramos.
C'était un nouveau club, c'est une nouvelle atmosphère. Il faut le temps de s'adapter. On sortait aussi de deux années Covid, ce qui n'était vraiment pas évident. Donc, j'ai quand même bon espoir que cette année, cette équipe va vraiment produire quelque chose de chatoyant et de sympa.
Bah, espérons-le pour les fans du PSG. Par contre, moi, je me suis fait la réflexion l'année passée, même une icône vivante, tu vas me dire, il y en a quelques-unes au PSG, mais même à Lionel Messi est tombé presque dans l'oubli dans cette équipe l'année passée, alors que lui, on a presque envie de dire, il faut même pas qu'il s'entraîne, c'est un diamant brut. Donc même lui, on le sentait qu'il traînait son ennui sur le terrain. Donc c'est pourtant, en France, ils n'arrêtent pas de dire que ces gamins sont choyés, bichonnés, ils ont une vie de rêve. Hein. Il faut pas oublier que leur talent, c'est juste de taper dans un ballon. Hein. Ils n'ont pas non plus, voilà, ils sont pas à la mine, quoi. Hein. Il faut, même si ça suppose quand même des efforts, on est d'accord, et
il y a quand
des
même sacrifices.
Sacrifices,
comme tu dis, d'être tôt au club, de s'entraîner, d'avoir un tas de soins.
Je suis d'accord, mais il y en a plein qui font des sacrifices similaires, qui gagnent pas le tiers du quart du millième.
On est bien d'accord, mais je connais certains joueurs qui font des sacrifices d'un point de vue familial aussi. Parce que oui, ça a l'air d'être une vie géniale de jouer au foot, d'être payé pour jouer au foot. Oui, c'est super cool. Mais il ne faut pas oublier, il y en a qui se lèvent à 7h du mat ou à 6h30 du matin. Ils sont au club, c'est le petit déjeuner ensemble. C'est 2 heures
En même temps, ils ont choisi la vie.
De repos, entre guillemets, de tactique, de discussion individuelle. Et puis après, il y a un entraînement de 2 heures ou 2h30. Après, il y a encore des soins. Après, il y a encore de la muscu. Et finalement, leur journée commence à 8h. Elle se termine, pour certains aussi, à 4h30, 5h. Et à ce moment-là, ils ont encore toutes les restrictions qui vont avec.
Oui, mais si nous, on veut aller manger, c'est librement choisi.
Oui, tout à fait. Mais si nous, on veut aller manger un steak béarnaise tout de suite, on va le faire. Pour un joueur qui est normalement constitué dans un club où on surveille tous les moindres détails, il ne peut pas le faire. Donc, il y a aussi quelques restrictions aussi
on est d'accord.
De ce côté-là.
Bah, chaque médaille a son revers, on est d'accord.
Tout à fait.
Mais bon, bah, là, on sait aussi que, enfin, il y a quand même, j'ai envie de dire, même dans une même équipe, il y a quand même des différences énormes pour les sacrifices identiques en définitive. Je veux dire, Messi doit quand même recevoir la balle d'un gars qui gagne 100 fois moins que lui. Et au bout d'un moment, ça peut peut-être aussi trotter dans les têtes en disant, je sais pas comment ça fonctionne, mais je vois déjà comment ça fonctionne dans des petites boîtes que j'ai eu l'occasion de connaître à gauche, à droite, ou même pour 10 euros de l'heure différence, c'est déjà presque un conflit social. Donc, on se dit que dans une équipe de foot, heureusement qu'il n'y a pas de syndicat, parce que ce serait un peu galère, je pense.
Il y a Sporta comme syndicat. Mais... c'est un syndicat global, plus joueur contre club et inversement, ou contre la Ligue.
D'accord, mais pas joueur contre joueur ou pas...
Non, mais ils aident côté transfert aussi, par exemple. Donc,
ah, joli, la phrase
décisive.
Tu devrais faire de la radio, là. Oui, tu devrais faire de la radio, parce qu'on va terminer avec les 5-6 minutes qui nous restent maintenant en parlant des transferts. Alors... quoi de neuf sur la planète transfert
Comme on disait, on avait Stanley Nsocki qui
12 millions.
Partirait peut-être du club de Bruges, tout comme Charles de Ketelaar.
Charles de Ketelaar, c'est quasiment
quasi
fait.
C'est toujours pas officiel, mais c'est quasiment fait. Je
35,
pas...
hein, donc finalement, ils ont trouvé un gentleman agreement. Ils en voulaient 40, on leur a offert 30. Finalement, on tranche à 35. Pas 35 sonnant et trébuchant. Je pense que c'est 32 plus 3, si j'ai bien compris.
Il y avait quelque chose aux dernières nouvelles de 32 plus 3, effectivement, avec des bonus. Après, il faut voir, est-ce que les bonus sont réalisables ou pas. Certains bonus, Charles de Ketelaar doit jouer 35 matchs, marquer 20 buts et gagner la Ligue des Champions. C'est moins facile que jouer 15 matchs, être impliqué dans 10 buts et Milan top 4 en Italie.
Espérons que... en tout cas, ce ne sera pas une mauvaise affaire pour, je le rappelle, un pur produit du club aussi. Hein. Donc, à part la formation qui a dû coûter ce qu'elle a coûté, mais pour le reste, il n'y a pas eu d'achat. Quoi.
Pas énormément, mais voilà. Après, c'est un pur joueur du cru du club, comme tu dis. Mais c'est aussi le transfert sortant d'un Belge, le plus grand de Jupiler Pro League. Donc, les compteurs s'affolent de plus en plus. On avait eu Wesley qui avait quitté Bruges. Après, on a eu Jonathan David qui a rejoint Lille de Gand. Là, on est de nouveau quelques millions au-dessus. Donc,
C'est bien pour le football belge, finalement, c'est bien parce que si je lui souhaite, s'il ne connaît pas de problème dans sa carrière d'ordre physique, ça va le rendre bien plus fort pour l'équipe belge. Hein. Je pense toujours au futur des Diables Rouges parce qu'on parle toujours de la génération dorée. Et je l'espère que ce sera cette fois-ci, sinon ce ne sera pas pour cette génération dorée, mais on a une nouvelle génération qui arrive et des expériences telles que Charles de Ketelaar semble aller en vivre ne peuvent qu'être positif, je pense, pour l'avenir du foot belge. sais pas ce que tu en penses, toi qui es fin connaisseur.
Disons qu'un transfert sortant comme ça, ça va bénéficier au foot belge et à Bruges. Et ça crée aussi l'image. Il y a beaucoup de talents en Belgique et il y en a vraiment beaucoup. Mm-hmm. Après, il y a une formule de championnat qui, on peut se poser des questions, mais il y a beaucoup de talents. Après, il n'y a pas assez de confiance en ce talent. Bruges l'a fait maintenant avec Charles de Ketelaere, mais petit à petit, l'équipe, etc. Et je trouve que ces statistiques, à titre personnel, ne sont pas si exceptionnelles que ça.
Non, mais
maintenant,
il a
beaucoup de talent, il le montre aussi, mais point de vue pur arithmétique, ce n'est pas
exceptionnel. Mais en même temps...
Après, Milan va débourser 35 millions, donc c'est une belle sortie. Après, il faut, j'ai envie de dire, éviter ce que Bruges a connu. Bruges a vendu Izquierdo, Wesley, Engels, j'en passe d'autres, qui n'ont finalement pas vraiment réussi par après. À part Bakka qui a réussi au Milan AC et Perisic qui a réussi partout à l'Inter de Milan.
Bakka c'était à Valence aussi.
Au Bayern, Villarreal.
Villarreal, pardon, t'as raison. Exact. Mais je pense que de Ketelaere a cet avantage, selon moi. Alors après, on peut encore discuter. Moi, j'entends parler de noms bien plus ronflants qui partent pour la moitié du prix d'un de Ketelaere. De Ketelaere, je suppose que c'est l'âge, d'une part, et d'autre part aussi son côté couteau suisse. Hein, parce que le mec, il sait jouer à gauche, il sait jouer à droite, il sait jouer au milieu, demi-def. Enfin, il est vraiment multitask.
7, 9, 10, 11. Il a plusieurs positions.
Exact. Et il est aussi performant à chaque place. Donc, je pense que pour un entraîneur d'un club top, ou de sub-top européen, c'est quand même une bonne recrue.
Mmh. Oui, tout à fait. C'est pour Milan, je pense. Milan a connu une très très belle saison. Ça va être très dur de rééditer le titre. Mais en tous les cas, top 4 avec un Charles de Ketelaere, ça peut très bien fitter dans le foot italien aussi.
Ketelaere, Origi, Salemakers. Mmh. Et il y en a un quatrième. Le nom m'échappe maintenant. Il y en a un quatrième, je pense.
Ah ben, il m'échappe aussi, alors.
je ne sais pas si ça va en revenir, mais voilà. Origi, Salemakers, De Ketelaere.
Belle petite équipe.
Ouais, je pense qu'il y aura des frites qui se vendront à Milan, je pense, d'ici peu. Il nous reste encore 2-3 petites minutes. Dries Mertens viendra à l'Antwerp ou pas, selon toi? Parce que là, tu parlais des sacrifices familiaux. Revenir avec sa famille à Louvain, enfin à côté de Louvain.
Ce serait financier. Je pense que Dries at Borès, par exemple, à Marseille, même si ça ne se fera probablement pas. Mais je pense que l'Antwerp est encore juste trop bas pour un joueur qui a connu
les hautes sphères. Il est en fin de carrière aussi. Hein.
Naples. Oui, mais il reste un joueur très polyvalent, très vif et qui fait beaucoup la différence. Donc,
Est-ce qu'il n'a pas pris une claque un peu à Naples? Il ne s'est pas vu trop beau, tu penses?
J'espère pas pour lui, parce que ça reste un joueur qui reste très agréable à regarder.
Il a perdu son bras de fer, clairement, quoi, malheureusement.
Ça, c'est le foot, malheureusement. Donc, après, s'il voulait gagner la même chose et que Naples ne voulait pas, c'est malheureusement ce qui arrive souvent aussi. Il y a beaucoup de litiges, comme ça, on va appeler ça, dans le foot, et surtout en période de transfert.
D'accord. Bien, écoute...
Allez, on va terminer avec une petite note positive. Cesc Fabregas, qu'on admire tous, lui, rejoint Côme. Como en série B.
Ah ben.
Et on en parlait du PSG.
Il n'y a pas le feu au lac. Comment on dit là-bas?
Très, très, très belle. Et on en parlait là tout de suite, mais justement, la Ligue 1 sera bientôt diffusée au Japon. Donc voilà, le PSG, on sait pourquoi ils ont été.
Ah ben, sans blague. C'est ça le truc maintenant. On sait après pourquoi ils sont allés. C'est ça.
Mais disons que c'est une synergie, une symbiose.
Donc il y a peu de chances qu'on les voit au Groenland, quoi, si j'ai bien compris.
Le Groenland va rénover son stade bientôt. C'est une info Sportimage. Je pense que tu l'as vu. Mais ils auront un très beau stade. Et comme je le dis et je le répète, on n'a pas de stade comme ça en Belgique.
Ah bien, dis-moi. Bien, ben écoute, c'était un vrai bonheur d'être avec toi cette semaine. On n'était qu'à deux. C'est pas toujours évident de parler foot pendant une heure à deux voix. La semaine prochaine, normalement, toi, on t'aura par téléphone, je pense.
Je serai à Glasgow, normalement.
À Glasgow, en
plus. Si on me laisse embarquer dans l'avion, évidemment, on ne sait jamais si Ryanair vole.
Et ce sera la veille du match retour, alors.
Tout à fait. Glasgow Rangers, Union Saint-Gilloise, à Ibrox Park, je pense que ça promet.
En espérant qu'il y ait encore du suspense, et c'est tout le mal qu'on souhaite à nos amis de la Royal Union Saint-Gilloise. C'est comme ça qu'on dit, Royal Union Saint-Gilloise.
Royal Union Saint-Gilloise.
Bien. Eh bien, si on a l'occasion, c'est pas le lundi, le match retour, j'espère. Hein.
C'est le mardi.
Parfait. Donc, on entendra bien ta voix et ce ne sera pas dans un stade avec 60 000 personnes autour.
En direct de Glasgow.
En direct de Glasgow. Pourquoi pas. Bien, Alex, merci infiniment d'être venu. Et puis, alors à la semaine prochaine.
Et une bonne semaine à tous.
Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous êtes toujours fidèles à votre émission sportive du lundi. Et dans quelques secondes, il sera 21h. Pour ma part, je vous retrouve demain matin, dès 8h, pour la matinale estivale. Bonne fin de soirée, bonne nuit à tous.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Fou, vous êtes un salaud.
Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Judaïca.
Une heure de musique sans pub. Bonnes vacances.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit prêt, toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain, le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket, je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge, normal mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve, toi t'as tout, nous on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme, du moins c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus, donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.